Chapitre 14. Le chemin forestier quitta la forêt et déboucha sur un paysage vallonné ainsi que l'avait annoncé Dougal. Le Gourka, en position 4-4, franchit l'obstacle sans siller et parvint à un ruisseau que l'on distinguait sur les photos Google Earth. À sec une grande partie de l'année, il serpentait sur un lit de pierre poli par le temps. Jane bifurqua vers l'ouest comme prévu et poursuivit sa route jusqu'à ce que son compagnon lui fasse signe de s'arrêter le long d'une pente. Ils descendirent du Gourka et poursuivirent leur ascension à pied au milieu des broussailles et des premières fleurs de printemps, sous le regard des lapins qui les suivaient des yeux, assis sur leur arrière-train. Le chant des cigales meublait le silence, et des papillons aux ailes oranges bordées de noir voltaient autour d'eux. À l'approche du sommet, Jane et Dougal s'accroupirent et rampèrent jusqu'à la crête. À 100 mètres, en contrebas, s'étalait la silhouette du ranch GZ, un bâtiment ultramoderne de verre et d'acier, aux murs de granit lisses ou rugueux selon les endroits. Dissimulés au milieu des hautes herbes, Jane et Dougal, munis de jumelles à lentilles anti-reflets, procédèrent à l'examen méticuleux des bâtiments dont les photos ne leur avaient dévoilé que les terrasses et les toits. Un long ruban de macadam s'éloignait du bâtiment principal en direction de la route la plus proche. À l'extrémité de cette allée privée se dressait la silhouette de la maison du gardien, un bâtiment de style victorien assez simple qui avait servi de refuge aux Chenec lorsqu'ils avaient acheté la propriété. Si les indications d'Overton étaient exactes, Sir Eichos vivait là, qui avait pour charge d'entretenir le ranch et ses terres en plus d'en assurer la protection. À l'image des résidentes d'Aspasie, il s'agissait d'individus transformés en esclaves, programmés pour n'obéir qu'à Berthold et Inga Chenec. Le ranch, faute d'abriter des animaux, n'était protégé par aucune clôture. Des détecteurs de chaleur et de mouvement avaient été installés sur l'ensemble des 30 hectares de terrain, réglés de façon à repérer tous les êtres vivants de plus d'un mètre de hauteur, d'un poids supérieur à 50 kilos. Si le système ne signalait pas la présence de coyotes et autres animaux de petite taille, il lui arrivait de se déclencher au passage d'un cerf. Allongé à côté de Jane au sommet de la crête, Dougal lui glissa dans un murmure. « Le personnage principal de ce roman se nommait Raymond Shaw, c'est bien ça ?»«
Un crime dans la tête, oui. Le livre a été adapté à 2 reprises au cinéma. »
« Jamais lu. Jamais vu. »
Dans le roman original, Shaw est fait prisonnier pendant la guerre de Corée. Les communistes lui lavent le cerveau et le renvoient aux États-Unis en lui confiant la mission d'assassiner des hommes politiques. Il ne sait pas lui-même ce qu'on lui a fait. Il est programmé pour tuer et ne se souvient pas de ses actes.
C'est donc pour ça que Chenec a donné le nom de Ray Shaw à ces malheureux qu'il a privés de personnalité et de mémoire, en les programmant pour tuer grâce à ses implants. Quel salopard! C'est peut-être un mec vicelard et tordu, mais c'est surtout une ordure.
Il est doté d'un sens de l'humour un peu particulier, comme me l'a dit Overton à propos du nom de son ranch, Ground Zero. Toujours d'après Overton, Un crime dans la tête est le roman préféré de Chenec depuis l'âge de 14 ans. Il ne s'est jamais identifié à Raymond Shaw ou au héros du bouquin, mais cette histoire de lavage de cerveau l'a profondément marqué.